Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour Pascal Dessin.
Bonjour.
Dans la continuité de vos derniers livres, vous venez de publier un roman noir naturaliste, un territoire littéraire que vous avez été l'un des premiers à arpenter en France et qui vous permet de vous intéresser autant à la nature humaine qu'à la nature animale et végétale. Ici, ce 20e titre, publié chez Rivage, s'intitule « L'horizon qui nous manque » et se déroule, de nos jours, dans le nord de la France, dont vous êtes originaire. Là, vous observez trois personnages, une femme et deux hommes, un peu en marge de la société, qui se retrouvent par hasard rassemblés sur un lopin de terre, de sable presque, puisque nous ne sommes pas très loin de la mer. Là, ils vivent dans des logements de fortune. L'histoire est racontée par Lucille, une jeune femme de 26 ans qui a quitté son emploi d'institutrice pour venir en aide aux migrants de la jungle de Calais avant d'être démantelée. Commençons donc avec elle. Que représente ce personnage pour vous ?
Un espoir, une envie, un désir sain. C'est le don de soi, Lucille. C'est quelqu'un qui a eu de l'audace, c'est quelqu'un qui, malgré la déprobation de sa famille, de sa mère, rompt avec l'éducation nationale pour travailler au sein d'une ONG qui a comme mission d'apprendre le français à de jeunes migrants. Elle ne pouvait pas mener de front, émotionnellement parlant, les deux missions. Donc, au grand dam de sa mère, qui s'est saignée aux quatre veines pour lui donner un métier. Voilà. Mais seulement, elle a pas bien vécu les choses, parce que c'est une situation très très violente. C'est une mission très douloureuse, finalement. Donc, elle est en rupture, elle fait ce qu'on appelle un burn-out, tout simplement.
Oui, parce qu'elle dit « je suis fatiguée de vivre
oui. ».
C'est dur d'entendre ça dans la bouche d'une jeune femme de 26 ans, qui normalement a justement tout l'avenir devant elle.
Oui, c'est un raccourci, c'est un désarroi que je ressens beaucoup aujourd'hui dans la jeunesse. Chez les adolescents qui, face à la détresse de l'époque, à la violence de l'époque, à tout point de vue, au niveau de notre humanité, au niveau des menaces qui pèsent sur la planète et sur nous, je sens comme ça un risque de perdre pied avant même d'avoir combattu. Donc elle est allée au combat un peu, mais elle a quand même une douleur profonde, un désarroi existentiel presque. C'est pas facile de côtoyer cette j'aime pas dire cette misère, cette douleur viscérale qu'il y a là chez ces personnages qui ont vécu le pire et qui ont un rêve et qui veulent accomplir ce rêve, c'est-à-dire aller vers les falaises qui sont de l'autre côté de la mer. C'est bien le cas, hein, parce qu'à cet endroit-là que je décris dans le livre, très souvent quand le temps est beau, on voit ces falaises. Alors imaginez le rêve de tous ces jeunes, notamment de ces adolescents qui ont vécu le pire au Soudan, en Libye, en Syrie, qui ont traversé la mer, qui ont traversé les terres à pied, les montagnes, qui en ont perdu des doigts, gelés à traverser les montagnes enneigées, qui arrivent près de Dunkerque, à Calais, là-bas, et qui voient les falaises. Il y a ce rêve, ils sont portés par ce rêve. Alors c'est vrai que j'avais envie de montrer que face à ce rêve, il pouvait y avoir aussi un désarroi chez les gens qui essaient d'être en soutien, en aide.
Et donc Lucille a été accueillie par Anatole, qui est un homme d'un certain âge, qui avant avait une baraque à frites, et qui désormais loue une caravane à Lucille, et arrive bientôt le troisième personnage, Loïc, qui lui a purgé une peine de prison. Ce sont donc trois personnages cabossés. Qu'est-ce qui vous intéresse dans leur parcours, leur solitude, leurs erreurs, voire leur marginalité, Pascal Dessin ?
Ah, ils ont dérapé. Alors, Anatole, il est l'expression d'un or perdu. J'ai voulu, à travers ce personnage, exprimer une certaine nostalgie que j'ai d'un or que j'ai connu quand j'étais enfant. Quand les Hauts-de-France, comme on dit aujourd'hui, étaient animés par des industries prospères, où les gens avaient du travail, où il n'y avait pas la détresse sociale et émotionnelle que l'on connaît aujourd'hui. C'est le nord des Ducasses, c'est le nord, justement, des baraques à frites, des fêtes en tout genre, les mariages duraient 3 jours. C'était des choses formidables. Anatole est le fruit de cette époque révolue. Il était aussi brasseur. Hein, les brasseurs étaient tout puissants dans le Nord. Il a fait mille métiers, mais dans la joie. Il a eu du travail. D'ailleurs, il est à la retraite. Hein, il a une vie quelque part normale, sinon qu'il vit dans un mobil-home. Donc voilà, avec lui, je voulais montrer une certaine nostalgie du Nord, d'un Nord perdu, mais avec l'espoir que ça renaisse aussi, parce qu'il est porté par un tempérament humoristique, un tempérament joyeux. Il est tendre comme personnage, donc c'est un motif d'espérer quand même. Et malheureusement, il va déraper, bon, pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici. Et puis Loïc, lui, je voulais raconter autre chose. Je voulais montrer que quand on a peut-être commis le pire, malgré soi, il avoue qu'il a tué, mais on ne sait pas vraiment qui. On le sait si on a lu Le Bal des Frelons, puisqu'il sort tout droit du Bal des Frelons, il faisait partie des Frelons. Ce personnage, il a quand même, au moment où je le prends là dans l'histoire, une envie de rédemption, une envie de se sauver. Il a eu une influence positive en prison, une psychologue qui lui a appris le subjonctif notamment, donc il en place de temps en temps, et donc il a envie de se sauver, il a envie même d'avoir un travail normal, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Il a un caractère assez imprévisible. Il est quand même assez fou par certains aspects. Et surtout, la société va pas l'aider parce que, je dirais pas délinquant un jour, délinquant toujours. En tout cas, pour les gens qui viennent de la prison, ce n'est pas évident de se réinsérer. Donc, il est l'expression de ça. Montrer que, il y a une grande difficulté à se sauver.
Alors, c'est des personnages qui sont, romanesque, mais en même temps très réaliste et qui font écho aussi à ce que la France est en train de vivre depuis un an. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais d'une certaine façon, ils nous font penser aussi un peu à ces gilets jaunes, ces gens qui sont fatigués de vivre de peu, d'être abandonnés un peu par le gouvernement, qui se rassemblent pour se réchauffer, qui, pour les plus courageux, vont manifester. Alors ici, vos personnages, ils manifestent pas. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un même esprit social que celui qu'on est en train de vivre ici depuis un an environ?
J'ai toujours eu comme souci de traduire l'angoisse de l'époque. Le roman noir que je pratique, c'est vraiment le roman noir dans la tradition de « ici et maintenant ». Et donc, ça fait maintenant quelques années que je raconte une société en détresse, une société qui souffre parce qu'on a fermé des usines, parce qu'on a jeté des milliers de gens à la rue avec toute la détresse qui en découle, des familles qui sont abattues et des dérapages inévitables, des divorces, des suicides. Je raconte ça dans la plupart de mes livres qui ont pour cadre le Nord-Pas-de-Calais. Hein, c'était le cas dans Les Derniers Jours d'un Homme, notamment. Donc, oui, inévitablement, en sachant que le livre était écrit avant que commence le mouvement des Gilets jaunes, mais il participe d'une logique. Si je peux écrire un tel livre aujourd'hui, c'est que j'ai capté tout le désordre, toute l'angoisse de cette époque. Alors c'est encore accentué dans le Nord-Pas-de-Calais parce que c'est vraiment une région qui a été sacrifiée sur l'autel du capitalisme sauvage, quoi. Dans les années 70-80, on a dit on ferme les usines, on arrête tout. Et on a tout fait en même temps. On a fermé les mines, on a fermé les chantiers de France, on a mécanisé les ports, donc on a éliminé les dockers. Enfin, on a fermé les industries lainières dans la Somme, en Picardie. Tout en même temps. On a mis sur le carreau des centaines de milliers de gens à qui aujourd'hui on dit mais il faut trouver du travail, sinon on va vous punir. On chasse les chômeurs en ce moment. Voilà. Donc, là, c'est encore accentué. Et ce que je montre aussi, c'est que malheureusement, ça touche les plus fragiles, ça va sans dire, et que lorsqu'on souffre socialement, le dérapage est inévitable, souvent quand on a aussi une fragilité intellectuelle, et que on en arrive inévitablement, comme certains de mes personnages dans le livre, à une certaine misère émotionnelle.
Et effectivement, on ne va pas en dire plus, mais il y a un dérapage. Et ce qui est très troublant de votre part, Pascal Dessin, c'est que vous nous avez fait tellement aimer ces personnages qu'on n'arrive pas à les juger, évidemment, de la même façon que vous non plus, vous ne les jugez pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Que l'écrivain est là juste pour poser une situation? Parce que là, clairement, la ligne du bien, du mal, de qui faut-il punir, qui est responsable, qui est coupable, elle devient très très floue, hein.
Ah oui, et puis je pense que on est tous innocents et tous coupables. On a mes personnages, ils sont ni blancs ni noirs. Je n'ai jamais voulu traiter mes personnages de cette façon. Je crois plutôt en une infinie de gris. Alors des fois, il y a des personnages qui sont très gris. Ça peut virer au noir, mais en tout cas, moi, je pense que les choses sont beaucoup plus nuancées. Et à la base, comme ils sont des victimes d'abord du système, on a du mal, moi j'ai du mal à les considérer comme entièrement coupables. Les raisons, les racines du mal sont telles que moi je ne peux pas les considérer comme des coupables. Donc moi je pense qu'il faudrait toujours aborder les choses avec beaucoup de nuances. Moi c'est ce que je déplore là quand on regarde les images sur la jungle de Calais, c'est que on voit toujours des moments d'une extrême violence. On voit pas tout ce qui se passe autour et notamment les gens qui sont là en soutien. On ne considère pas les personnages de cette histoire, de cette malheureuse histoire comme il le faudrait.
Alors justement, arrivons-en à ce sujet précisément avec le personnage de Lucille, parce que c'est vrai que elle, clairement, elle a fait le choix de l'humanité, d'où son engagement auprès des migrants, tandis que son petit ami, lui, a fait le choix de la nature et considère que le camp d'accueil de Calais a détruit le biotope de la région. Et on est dans cette dualité, mais faut-il vraiment faire un choix entre l'homme ou la nature, comme les deux se positionnent sur cette question, ou peut-on plutôt essayer de concilier l'homme et la nature, Pascal Dessin ?
Il faut concilier les deux.
Ouais.
L'homme est une espèce en danger aussi, et on le voit bien partout sur la planète aujourd'hui. C'est une question que je voulais poser au lecteur de faire son opinion. Mais je sais qu'elle a été posée concrètement. Je sais que des naturalistes ont vu d'un mauvais œil, eux qui aiment la vie, la nature, certains hein, ont vu d'un mauvais œil cette jungle, parce que justement la nature a été tellement malmenée sur cette côte de France qu'il en reste très peu sauvage. Et que là, c'était encore un espace qui était agressé. C'est un cas particulier, je vous rassure. En général, les naturalistes aiment la vie et aiment les humains aussi. Mais c'est une question qui pouvait se poser et j'ai eu envie de la poser. Non, moi, mon intime conviction, c'est qu'on sauvera la planète en sauvant l'homme.
Et peut-être qu'on sauvera l'homme aussi en sauvant la planète.
Exactement, exactement. Parce que là, on voit que l'inventaire sinistre s'allonge chaque jour. Ce qui pèse comme menace sur nous est parfaitement terrifiant. Donc oui, je crois que il faut se prendre en main là et bouger les choses. Je voulais poser cette question à chaque fois, à chaque livre, j'essaie de poser une question un peu dérangeante comme celle-là.
Autre paradoxe, peut-être en tout cas, c'est que cette nature, elle est très importante pour Anatole, qui est passionné par les oiseaux. Il en fabrique lui-même, il les sculpte dans le bois, et en même temps, c'est quand même un chasseur. Et il a un fusil. On peut concilier les deux, aimer les oiseaux et chasser.
Oui, mais ça me faisait plaisir d'abord de mettre un personnage comme ça, un chasseur aussi sympathique en scène. Il faut que je parle de l'endroit un petit peu, parce que c'est un chasseur dans un endroit très singulier. C'est un territoire qui est émouvant, parce que c'est la Flandre maritime, avec ses dunes, avec cette mer qui se retire très loin. Mais c'est aussi une zone très particulière où les chasseurs sont tout puissants. Il y a ce qu'on appelle des mares, des huttes, et ils ont le pouvoir sur cette zone-là. Ils sont, par certains égards, assez détestables. Tout récemment, des phoques ont été tués sur cette zone, voilà. Et c'est un endroit où j'ai vécu mes premiers émois de naturaliste. Et où j'ai été confronté à une certaine violence humaine, parce que justement les chasseurs voyaient d'un très mauvais œil que nous regardions les oiseaux pour le plaisir avec des jumelles, voilà. Et c'est une histoire qui remonte à très loin, puisque ça remonte à mon enfance. Et Anatole est le contraire des chasseurs auxquels j'ai été confronté à cette époque. Et donc c'est comme ça qu'il s'est construit. Et comme toujours, là encore, pourquoi ne ferais-je pas un personnage sympathique d'un personnage qui a priori peut-être criminel hein, pour le coup de la petite criminalité mais du crime quand même, voilà. Alors j'ai voulu mettre, voilà, c'est une manière de me moquer un petit peu aussi de moi.
Il nous fait un peu penser à la chanson de Michel Delpech, que vous citez d'ailleurs, Le Chasseur, de cet homme qui part avec son fusil et puis qui en fait est tellement ébloui par le spectacle des oies sauvages qui s'envolent au-dessus d'un étang ou d'un lac, finalement il ne tue personne et contemple la beauté.
C'est son cas d'ailleurs, puisque de tout le livre il ne tue pas d'oiseaux, ou on évoque une chasse mais on ne le voit pas tuer. Ça, je n'aurais pas pu le mettre en scène, il y a des limites.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus l'étang. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Pascal Dessin qui vient de publier L'horizon qui nous manque chez Rivage, un titre qui porte en soi une forme de désespoir à l'image aussi de vos livres précédents intitulés entre autres Un homme doit mourir, Le chemin s'arrêtera là, Maintenant le mal est fait, pour en citer que trois. C'est très pessimiste tout ça, non ?
Non. Non.
Mais reconnaissez que ce sont des titres quand même qui ont une vision du monde assez fermée.
Peut-être. Moi, je pense que ça donne espoir. Quand on fait le constat du pire, on peut commencer à réfléchir à peut-être améliorer les choses. Et l'horizon qui nous manque n'est pas forcément un titre pessimiste. Il laisse envisager qu'on va combler le manque, peut-être. Voilà, évidemment, Le chemin s'arrêtera là, c'est un peu plus punk, un peu plus radical. Et il n'y avait pas beaucoup d'espoir dans le livre, il faut le reconnaître. Un homme doit mourir, bon, effectivement, mais c'est fatalement vrai.
Ça nous arrive. Ça nous arrive.
Donc je suis dans un certain réalisme qui correspond bien au roman noir.
Absolument. Mais est-ce que le fait d'appréhender par l'écriture cette noirceur vous donne justement, vous, un nouveau souffle en tant qu'homme sur le monde?
Oui, je pense. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai 55 ans et je ne cesse d'être dans l'action pour souhaiter le meilleur. Mais j'ai besoin de dire la noirceur du monde. Comme je cherche peut-être un soulagement, j'emploierai pas des mots, de grands mots pour cela. Je dirais simplement que ça me procure du soulagement et qu'après cela, une fois que j'ai finalement crié mon angoisse, je peux être un peu plus normal dans la vie. Si je portais tout cela en moi, au fond de moi, qu'en permanence, ça serait insupportable. Une fois que j'ai raconté une histoire, qui est souvent d'ailleurs basée sur des faits réels, hein, sur une réalité sociale en tout cas, c'est pas que je l'oublie, mais ça me permet de le mettre de côté pendant un petit temps.
Donc l'écriture vous change aussi?
Ah oui, complètement, en permanence. Oui, parce que chaque écriture est d'abord une aventure personnelle avec son époque, avec le monde qui entoure l'auteur, les personnages, et le langage. Le choix des personnages m'amène toujours à m'enrichir, à me transformer, à apprendre autre chose du monde, presque même à m'obliger à aller dans la vie.
Par exemple,
là, Mamie Crevette.
Oui.
C'est pas une invention.
Une dame, qui a une telle dextérité dans les doigts qu'elle est capable de décortiquer des crevettes à une vitesse phénoménale.
Voilà. Et il y a vraiment un championnat du monde de décortiquage de crevettes grises qui se tient à Le Frincook, près de Dunkerque, tous les ans, au mois d'août. Alors, j'avais eu vent de cette affaire, qui m'avait beaucoup amusé. Et pour qu'on nourrisse mon personnage, j'avais pensé que ça pouvait être une très très bonne idée. Donc, je suis allé dans l'écriture sur cette idée. C'est l'idée qui m'a porté. Mais ça n'a pas suffi. Pour moi, c'est qu'une fois que j'ai eu l'occasion de participer à ce concours, enfin, en tant que spectateur, je ne m'en suis pas privé et du coup, le livre me prolonge aussi, me nourrit, m'enrichit.
Et alors, est-ce que pour autant, puisqu'il y a un personnage de policier que l'on va croiser, est-ce que pour autant, vous vous documentez aussi pour les méthodes policières?
Alors,
comment ça se passe?
Je l'ai longtemps fait quand j'étais dans un cycle plus criminel, de romans criminels, avec Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, Loin des humains, ma période toulousaine, où j'écrivais des romans plus policiers, ce qui n'est plus beaucoup le cas. Oui, à l'époque, je me documentais beaucoup. Là, c'est un flic qui passe comme ça. Hein. D'ailleurs, il est passé déjà dans Le chemin s'arrêtera là. Il passe. Je trouve que c'est un personnage intéressant parce que lui aussi il détonne, hein, et il dénote.
Oui.
Parce que ce qu'on voit aujourd'hui là-bas notamment, c'est une extrême violence parce que les gens sont à bout, et notamment dans les services d'ordre, il y a de l'excès aussi parce que les gens sont à bout. Je voulais montrer qu'il y avait aussi une autre possibilité de percevoir la situation, notamment à travers un enquêteur de police qui serait plus, là encore, plus nuancé et pour le coup là, plus humaniste, et je crois que ça existe.
Mais néanmoins, vous diriez, Pascal Dessin, que vous vous détachez du roman criminel stricto sensu?
Je n'ai pas écrit réellement de roman polar depuis 10 ans.
Oui.
Hein, toute la dernière période et on est dans le roman noir, dans le roman social.
Mais est-ce que vous diriez pour autant qu'il y a une écriture responsable chez vous, dans la mesure où vous braquez votre torche sur clairement les déclassés de la société, on l'a dit, migrants, chômeurs, retraités, anciens détenus, et les dangers écologiques aussi que nous provoquons? Est-ce qu'il y a cette écriture responsable?
C'est vous qui pouvez le dire. J'espère, je serais satisfait qu'on voit mon travail comme ça. Je pense que c'est le rôle de l'auteur, d'être un observateur de son temps, critique aussi, hein, pour évoquer Manchette. Voilà, un témoin. Je crois qu'un auteur de roman noir, il a pour mission de témoigner du monde au plus près. J'y reviens ici et maintenant. C'est un peu le son rôle. Et il est intéressant de voir qu'il y a cette tradition en France, d'ailleurs, avec des auteurs formidables qui, à chaque fois, décident de raconter l'époque et le monde tel qu'il va mal. Voilà, moi, aujourd'hui, je suis le fruit déjà d'une évolution de cette société et j'écris ce qu'elle est devenue à ce moment-là.
Mais avec cette spécificité, donc, comme je le disais en ouverture de l'émission, du roman naturaliste,
oui,
du polar naturaliste, Ça existe donc, c'est concret.
Ben, c'est incontournable aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment peut-on parler de ce monde sans aujourd'hui parler de toutes ces menaces, de toutes ces tragédies qui, de plus en plus, vont intervenir dans nos vies sans que toujours on s'en rende compte dans un premier temps, mais aujourd'hui, voilà, on s'entend sur le fait que le réchauffement climatique, la montée des eaux va faire se déplacer des populations, va faire envahir des terres, que ça va intervenir de plus en plus dans notre vie, d'occidentaux notamment. L'effondrement de la biodiversité, c'est pas non plus un mythe, c'est bien réel et tous les jours on en a les preuves. Tout cela, à mon avis, doit intervenir dans le roman noir.
Et l'écrivain a une carte à jouer dans le changement des mentalités ?
Modestement, il peut participer d'une prise de conscience. Vous savez, j'ai une petite anecdote à cet égard. Quand j'ai écrit Cruelle Nature, qui s'inspirait de mon expérience que j'avais eue en Brenne, j'avais mis en scène un personnage naturaliste dépressif. Et il s'était donné pour rôle de ramasser les animaux morts au bord de la route parce que les voitures roulaient trop vite dans le parc naturel régional de Brenne. Et il faisait des statistiques avec l'espoir qu'on réduise la vitesse, mais aussi qu'on pose des pictogrammes le long des routes pour indiquer le passage des hérissons, le passage. Le livre est paru en 2006-07 et 2 ans plus tard, Indre Nature s'est emparé de cette idée. Et aujourd'hui, dans le parc, il y a des pictogrammes avec des tortues, parce que il y a des tortues cistudes là-bas qui traversent la route au mois de juin, et il fallait que les voitures ralentissent pour qu'on ne les écrase plus. Alors, je ne dis pas que ça vient directement de mon livre, mais je sais quand même un peu que ça vient de mon livre. Je suis très fier de cela. Quand on me dit que la littérature ne sert pas à grand-chose, je m'inscris en faux à tout point de vue. Moi, ça m'a changé la vie souvent. Et je pense que de temps en temps, oui, ça peut servir à quelque chose. Et alors, pour répondre à la question, il y a des exemples qui montrent que c'est possible. Voilà, alors peut-être que je participe d'une prise de conscience, mais j'ai été longtemps seul sur ces sujets. Il y a d'autres auteurs maintenant qui commencent à y réfléchir, à parler de la nature dans les livres, ce qui était moins évident, c'était pas dans notre tradition, hein. Donc c'est formidable. Donc plus on sera nombreux, plus on pourra poser aussi cette question, plus on pourra créer du débat. On peut regretter que dans la presse on n'en parle pas assez, malheureusement. Donc voilà, peut-être qu'il Il y a un espoir d'aller dans le bon sens aussi.
Qu'est-ce qui manque à notre horizon aujourd'hui ?
Oh là là ! Tellement de choses. Moi, je pense qu'on est dans un monde qui manque de générosité, d'attention, de curiosité, de connaissance. Parce que quand on connaît, forcément, on est amené à aimer. Et si on aime, on détruit pas. Ou alors, on est dingue. Ah, on met les dingues de côté, mais je crois que voilà, il nous manque ça, il nous manque la connaissance, la curiosité et qui conduit au respect. Ça nous manque, ouais. Je pense que tout cela, c'est des valeurs qui pourraient nous sauver vraiment.
Ça nous manque, mais sur la couverture de votre livre, il y a une fenêtre. Donc ça veut dire que au loin, il y a quand même un horizon.
Ah oui,
qui s'ouvre à nous.
Mais oui, mais de toute façon, on n'a pas le droit de renoncer maintenant. Ouais. En tout cas, ceux qui créent n'ont pas le droit d'être. Alors, c'est des punks, c'est très bien. C'est une conduite qu'on peut avoir et assumer. Mais quand on est un écrivain ordinaire, soucieux de l'époque et de l'humanité, et voilà, on est obligé de nourrir de l'espoir. Et puis, comme beaucoup d'humains, moi, j'ai décidé à un moment donné d'avoir une descendance. J'ai un fils qui grandit et qui verrait très mal que son père déconne complètement en imaginant que tout est foutu.
Merci beaucoup, Pascal Dessin. Tout n'est pas foutu, donc.
Non, tout n'est pas foutu.
Je rappelle le titre de votre nouveau roman, L'horizon qui nous manque, qui est paru chez Rivage.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.